Votre podcast Swing vous est présenté par Strixon et ses balles Z-Star, Z-Star XV et Z-Star Diamond. Victorieuse sur tous les circuits, elle performe comme vous l'exigez. Brooks Koepka, Hideki Matsuyama ou encore Shane Lowry les utilisent. Alors pourquoi pas vous ? Les balles Z-Star de Strixon sont disponibles dans plus de 600 points de vente en France.
Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. On est toujours à l'USPGA, toujours à Oak Hill pour vous faire vivre ce dénouement incroyable. Brooks Koepka a remporté cette USPGA. Guillaume Biojo, t'es toujours avec moi. On est toujours à Oak Hill et on a vécu un dernier tour de dingue. C'était fou.
On a vécu une semaine de dingue avec effectivement Brooks Koepka qui a été impressionnant. J'ai suivi 18 trous aujourd'hui, quasiment 18 trous. Et il a mis la main sur le trophée assez rapidement. Il y a un moment où on a cru que Victor Hovland et à la fin Scottie Scheffler allaient venir l'embêter.
Mais ouais, c'était une belle bagarre. Hein. Il y a eu
bien sûr, mais il a vraiment il a pris l'ascendant en faisant birdie 2-3-4 et à partir de là, personne ne l'a jamais rattrapé et ça a été franchement impressionnant.
Ouais, et surtout l'un des tournants, évidemment, c'est ce trou numéro 16 avec. Victor Hovland qui se retrouve un peu pendu dans le bunker au même endroit que Corey Connors samedi d'ailleurs, c'est marrant.
Ouais, j'avais la chance d'être juste derrière. Alors effectivement, il avait la balle beaucoup plus basse que les pieds et il l'a tapé un tout petit peu dans le bas du club avec un club qui était plutôt un club un fer 7 ou un fer 8 un peu fermé. Elle est partie pas topée mais très clean, elle est partie très basse.
C'était un coup compliqué,
un coup très compliqué surtout à ce moment-là. Et franchement, il a été une fois de plus Victor Hovland hyper fair play. Pourquoi ? Parce que il plug contre la lèvre et étant donné qu'il plug contre la lèvre, il a le droit de se dropper gratuitement et l'arbitre lui indique un endroit où se dropper et clairement il a dit non, là je me rapproche, je veux pas me dropper là. Donc ça prouve
sinon il aurait été avantagé.
Il aurait été vraiment avantagé, il pouvait quasiment aller au green et donc il s'est redroppé dans une situation un peu plus compliquée et malheureusement il a fait double sur ce trou là et ça a quand même bien fait avancer le sujet pour Brooks Koepka.
Ouais, Brooks Koepka, troisième victoire dans cette USPGA. Brooks Koepka qui est passé sur le Leaf Golf, qui est surtout passé par les blessures. On se souvient évidemment de cet épisode de Full Swing, la série sur Netflix où on le voit limite dépressif dans son canapé, regarder cette armoire, enfin cette étagère à trophées désespérément vide. Il était au bord de la dépression, Brooks Koepka, avec cette blessure au genou. On le rappelle, c'est une résurrection clairement,
une résurrection. Je sais pas, effectivement, c'est quelqu'un qui joue très bien et qui, dès qu'il y a un tournoi majeur, se transcende. Mais effectivement, je pense qu'il est revenu de très loin. Juste après qu'il ait gagné, j'ai passé un tout petit moment avec Claude Armand, son coach, qui était quasiment en larmes, qui avait on se sentait hyper hyper ému.
D'ailleurs, beaucoup de coachs l'ont félicité, notamment Pete Cohen aussi à l'image, le coach Victor Pérez.
Bien sûr, et on sent qu'ils ont dû passer par des moments assez difficiles. Et voilà, on le sait, Koepka, quand il est en majeur, c'est un autre homme. Et ça fait 5 à son palmarès et ça devient assez impressionnant. C'est assez impressionnant.
Victor Brooks Koepka qui remporte son quatrième majeur, son cinquième majeur, et 2 US Open et donc du coup 3 USPGA. D'ailleurs, c'est marrant, c'est son troisième majeur qui gagne dans l'État de New York.
On était ensemble en 2019 quand il a gagné à Bethpage.
À Bethpage, et il avait gagné son US Open à Shinnecock sur Long Island. On a vécu une édition extraordinaire. C'est vrai qu'on parfois cette USPGA était un peu sous-côté.
Par rapport aux
trois autres majeurs, et c'était l'objet de notre émission de pré-tournoi, de présentation, il arrive souvent en quatrième position. C'est souvent le majeur que les joueurs ne citent pas quand on leur pose la question: est-ce que vous rêvez de gagner l'USPGA? Et quand on voit aujourd'hui l'ambiance qu'il y avait à Oak Hill, le monde, le dénouement, la dramaturgie, le leaderboard
et le parcours, Jean-Philippe.
On ne peut que aimer cette USPGA, ce cru 2023.
Alors, comment est-ce que les gens l'ont vécu à la télé? Est-ce que ça a pu retranscrire ce que nous on a vécu? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le parcours était hallucinant, que le leaderboard était hallucinant, que le champ est hallucinant, et que c'est effectivement une ambiance, franchement, c'est dur à décrire. C'est une ambiance
après,
de
c'est
malade.
C'est un peu caractéristique de la région de New York où il y a souvent une ambiance assez chaude. Évidemment, aujourd'hui, en plus, il faisait assez lourd. On imagine que les spectateurs n'ont pas tourné qu'avec de l'eau claire.
Non, je te confirme. Non.
Donc forcément, ça fait l'ambiance monte d'un cran. Alors évidemment, Brooks Koepka est depuis passé sur le Live. On a vu dans le public, sur le Live Golf, ça vous fait rire, Guillaume?
Oui, parce que je sais que tu es très content que depuis le début de la semaine, tu scrutais le leaderboard en disant « Bon, alors combien de joueurs on a du Live en tête ?» Et effectivement, Brooks Koepka, c'est pas celui, je dirais, les deux qui ont fait parler un peu plus de cette semaine, joueurs de Live, c'est Bryson DeChambeau et Brooks Koepka. C'est un peu plus Bryson DeChambeau qui a été un tout petit peu, un ou deux petits... tout petit peu hué au départ du 1, rien de dément, mais on sent que en tout cas c'est complètement en train de s'aplanir complètement. Oui, ces histoires de Live et de PGA Tour, on sent que les choses sont en train de revenir dans l'ordre et que c'est des joueurs de golf, des joueurs de très très grand talent et que tout le monde est là pour performer quel que soit le circuit où ils jouent.
Ouais, et surtout quand on regarde le classement après le Masters d'Augusta où on avait vu avec la belle performance de Phil Mickelson, Brooks Koepka qui était deuxième, Patrick Reed qui était dans le coup. Là, on regarde le classement, Brooks Koepka qui gagne. On voit, en reparlant du Live Golf, évidemment, Bryson DeChambeau qui est là et Mito Pereira également dans le top 20. Ça veut dire que ces joueurs ne sont pas, comme le disaient certains observateurs, à la retraite et passés sur ce circuit-là pour faire de la figuration. Là, ils sont sur les majeurs, ils jouent leur chance à fond et c'est des compétiteurs.
Et ils performent, on le voit. Là, on est dans la salle de presse, on voit devant nous la remise des prix et c'est un joueur du Live qui a gagné.
Et encore une fois, c'est pas du tout pour faire la pub pour le Live
Golf. Non, bien sûr, c'est pour faire la pub du golf et les champions avant tout.
Alors évidemment, on a eu la chance d'être au départ de ce trou numéro 1. Vous l'avez dit, Bryson DeChambeau un peu sifflé, mais on a eu la chance de vivre ce départ complètement hallucinant et cette partie complètement atypique entre Rory McIlroy et Michael Block. Vous entendez derrière l'ambiance que ça peut donner une partie comme ça. Alors on le rappelle, hein, Rory McIlroy qui est un des chouchous du public américain, mais aussi qui est un chouchou du public de Rochester. Sa femme vient de Rochester, il est membre à Oak Hill. Voilà, c'était un des chouchous. Et puis de l'autre côté, Michael Block, pro PGA.
Enseignant,
et c'est la particularité de
l'enseignant en Californie
qui est qualifié, 20 pros de la PGA se qualifient pour jouer cette USPGA et cette histoire complètement dingue de Michael Block, ce départ canon et puis cette partie avec Rory McIlroy. Déjà la scène hier quand il apprend qu'il joue avec Rory McIlroy, c'est assez hilarant pour ce pro de golf.
Ouais, c'est incroyable quoi. Il était sur l'antenne, je crois, de Golf Channel quand il a appris qu'il jouait avec Rory McIlroy et il en revenait pas. Ce matin, on l'a vu à quelle heure, Jean-Philippe?
14h.
À 14h. Non, 14h, mais nous, on l'a vu
à
quoi?
On l'a vu, il était
à midi et demi. Il était assis dans un... Il était assis avec sa femme et ses amis en train de boire un coup gentiment avant
comme
d'aller
si,
taper
comme si de rien était, ouais.
Ouais, avant d'aller faire sa partie, entre guillemets, du dimanche. Bah, c'est le cas de le dire, c'est le dimanche. Et on sent qu'il a fait les choses sérieusement, mais il a surtout savouré ce moment. Et
48 ans, on le rappelle, hein, 48 ans.
Et donc, il a fini 15e. Donc, il jouera l'année prochaine. Il a fait 3 en 1 au 15, enfin une semaine pour lui absolument extraordinaire et clairement il a été applaudi depuis le départ du 18 jusqu'au green du 18. Ça a été une des attractions de la semaine, parce que j'aime pas ce mot pour un être humain, mais en tout cas ça a été une des stars de la semaine.
Ouais, ça a été une des stars de la semaine, on l'a vu d'ailleurs sur ce trou numéro 18 faire le par, demander d'ailleurs au public de se calmer parce que Rory McIlroy allait encore faire son putt. Et surtout, on l'a vu en larmes au plateau des télés américaines, surchargé par l'émotion, surchargé aussi par la charge d'amour du public, certainement.
Évidemment, et puisque tu me lances sur ce sujet, donc moi j'ai suivi la partie beaucoup aujourd'hui, la partie de Koepka et de Victor Hovland. Victor Hovland et ce double au 16, malheureusement, qui
lui coûte très cher,
qui anéantit toutes ses chances. Et j'ai été, après, dès qu'il a fini, dès qu'il a signé sa carte, il a répondu à quelques questions d'Otti Pepper, en l'occurrence une des consultantes américaines extrêmement connues. Et il était vraiment à quasiment en larmes. Il avait les yeux rouges et on sentait à quel point il était impacté par le fait de ne pas avoir gagné, d'être passé si près. Encore une fois,
j'ai envie de dire, pour Victor
Hovland. Ouais, encore une fois, je sais pas, il est très jeune, mais ce qui est absolument génial et la chance qu'on a, nous, Jean-Philippe, en étant dans les cordes, en vivant ces moments extraordinaires, c'est on a la chance d'être parfois assez près de ces joueurs. Et on pourrait croire, alors là je vais encore pas me faire des amis, hein, mais c'est pas très grave, on pourrait croire que ces joueurs, y a que l'argent qui les intéresse, qui vont sur le livre pour l'argent ou quoi aux caisses. C'est pas que ça. On voit un Victor Hovland aujourd'hui qui était anéanti à la
fin.
Qui
n'est pas sur le livre. Hein, faut
qui n'est pas sur le livre, mais on voit un Brooks Koepka, malgré les propos que j'ai tenus il y a quelques temps, qui quand il gagne ici, il est hyper, hyper content, ému, soulagé, je pense aussi, de voir qu'il a retrouvé son jeu. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point ces joueurs arrivent à gérer la pression, mais ont cette pression, ont cette envie, cette volonté, et que c'est pas uniquement des robots qui
aiment
là.
La compétition.
Ouais,
tout
c'est pas des robots qui sont là uniquement pour gagner de l'argent. Bien sûr qu'ils en gagnent, beaucoup, et tant mieux, c'est les meilleurs dans leur sport. Mais en tout cas, c'est absolument génial de pouvoir vivre ces moments-là et de voir à quel point ces joueurs-là sont passionnés par le jeu et n'ont qu'une envie, c'est de performer et de gagner.
Allez, Guillaume, je vous propose de faire une petite pause. On va écouter justement tout de suite.
Je parle trop peut-être.
Non, c'est passionnant. J'adore vous écouter, Guillaume. On va écouter tout de suite Thomas Dautry, qui lui était aussi cette semaine présent dans le champ, le joueur belge. Il va nous raconter à quel point ce parcours et cette semaine étaient difficiles.
Alors ouais, c'était un gros test de golf. On a eu des conditions climatiques qui n'étaient pas faciles. Il a fait froid, on a joué dans le froid, il y a eu du vent. Voilà, je pense que ça s'est assez fort différencié dans le sens où les gars qui ont joué l'après-midi, jeudi et le matin, vendredi, comparé à ceux qui ont joué l'inverse, qui ont fait jeudi matin et vendredi après-midi. Je pense qu'il y a une grosse différence avec les conditions climatiques. Je me souviens avoir terminé mon parcours vendredi midi en espérant grappiller un max de place au classement. Et puis finalement, le cut a finalement failli basculer à plus 4 au lieu d'aller plus vers plus 7. Quoi.
Il fallait avoir un peu de chance, c'est ça ?
Ouais, mais pas spécialement de la chance, mais je pense que cette semaine, ça s'est fort différencié à ce niveau-là. Et on a vu la même chose hier, tous ceux qui ont démarré tôt le matin hier, ils ont eu la pluie. Et les gars ont toujours eu un peu de pluie l'après-midi, mais moins en fin de journée. Il a pas plu en fin de journée. Donc voilà, je pense qu'il y a eu, un peu de ça, mais dans l'ensemble, le parcours, c'est un gros test de golf. Hein. Et en fait, bon, il y a les opportunités de birdie. Hein. On sait qu'au début du back nine et au début de l'allée, il y a des opportunités de faire birdie, mais c'est surtout 16, 17, 18 et 7, 8, 9 qui peuvent faire mal. Hein.
C'est évidemment c'est de l'expérience en plus pour toi de jouer des parcours comme ça, de passer le cut.
Alors je pense que déçu dans l'ensemble parce que je pense que j'ai vraiment le niveau et le jeu pour faire des top 10 sur les majeurs maintenant. Je sens vraiment que mon jeu a atteint un chouette niveau. Voilà, je me sens confiant, je sens que j'ai ce qu'il faut et que j'ai les atouts pour y aller. Donc voilà, un petit peu déçu de finalement que faire un top. Je sais pas ce que je vais terminer top 40 cette semaine. Voilà, ça reste quand même top 40 dans un champ. On dit que c'est the best field in golf, tu vois. Donc voilà, mitigé, mais bon, dans l'ensemble, voilà, ça reste un top 40 dans un majeur et on continue à prendre tout ce qu'il y a à prendre, l'expérience et d'évoluer et de s'améliorer.
Voilà, Thomas Dautry qui a terminé son tournoi à la 40e place. Parcours hyper exigeant, on l'a dit, mais je vous propose tout de suite de passer à Victor Pérez, notre Français qui nous a fait vibrer hein, clairement aujourd'hui avec cette entame de partie canon, avec 4 birdies hein, sur les
5 premiers trous.
Sur les 5 premiers trous, cet enchaînement du 2 au 5, c'était... voilà, on y a cru à cette folle remontée, et le public commençait à le supporter, à dire « come on Vic ».
La télé américaine commençait
à le montrer,
ce qui est quand même
Alors aux États-Unis, on dit « Perez ».
Perez.
Perez, voilà. Donc semaine fabuleuse pour Victor qui passe un cap en plus. C'est peut-être le début de quelque chose dans ces gros tournois pour Victor Perez. Je pense qu'il s'est prouvé quelque chose cette semaine à Oak Hill.
prouver quelque chose peut-être. Il a quand même gagné à Abu Dhabi, il a gagné le Denis, il a gagné des vrais tournois déjà.
Ouais, mais en majeur, c'est ça.
Non, évidemment, c'est sa meilleure performance. Je suis tout à fait d'accord.
Et en majeur, et les joueurs le disent, en majeur, tout est plus grand, tout est plus difficile.
Je suis d'accord. Et le champ était, on le sait, hein, et tu l'as dit en début de ce podcast, en général, le PGA Championship et le tournoi qui paraît être moins puissant que les autres, des quatre autres majeurs, mais c'est celui, on le rappelle, qui a le plus gros champ. Et le champ, cette semaine, était impressionnant. Donc, finir 12e ex aequo de ce tournoi, c'est très impressionnant et très encourageant pour Victor Pérez. A priori, il va être qualifié pour l'US Open. Il a quand même marqué des vrais points vis-à-vis de son capitaine Luke Donald, et on attend impatiemment les nouveaux classements demain pour voir à quel où il va se situer.
Au classement mondial,
au classement mondial,
59e au classement mondial
et au classement de la Ryder Cup. Donc voilà, Victor. Moi, ce que j'ai envie de redire sur Victor, c'est je vais pas me faire des amis une fois de plus. C'est pas le swing dont on parle au practice. Quand on parle de swing de joueurs français, on parle de Raphaël Jacquelin, Grégory Avray, Mike Lorenzo Vera. C'est les swings qu'on a envie de reproduire parce qu'ils sont extrêmement beaux à voir, très efficaces aussi, bien évidemment. Mais Victor Pérez, c'est un modèle dans son organisation, dans la manière dont il gère sa carrière. Et il faut vraiment mettre ça en avant. Moi, je le vois taper des balles au practice, il fait toujours la même chose, il a ses routines, il ne décroche pas de ses routines, ses entraînements avant de jouer du jeudi, vendredi, samedi, dimanche sont les mêmes. En tout cas, un grand, grand bravo à lui, il est impressionnant.
Alors, il y a une petite confidence, hein. On a vu pendant ces parties de reconnaissance, vous parliez de Ryder Cup, de Victor Pérez justement partager une partie de reconnaissance avec Luke Donald et Yann Rahm. Alors, pour la petite histoire, c'est même Yann Rahm qui a envoyé un petit texto à Victor Pérez pour lui demander s'il voulait jouer avec lui. Alors, évidemment, rien n'est fait pour la Ryder Cup, mais tous ces petits signaux sont quand même encourageants. On le rappelle, hein, l'année où Victor Dubuisson en 2014 se qualifie pour la Ryder Cup, il réalise de très solides performances en majeur, c'est deux top 10, un top 15. Voilà, il reste du boulot à Victor Pérez pour se qualifier, mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien.
Exactement. Il reste du boulot, mais il fait du bon boulot aussi. Donc, effectivement, les voyants sont plutôt au vert. Il faut continuer à performer. Il faut continuer à montrer à Luke Donald qu'il joue très bien. Il faut qu'il continue à marquer des points pour le classement Ryder Cup. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. C'est une certitude.
Allez, je vous propose tout de suite de l'écouter, Victor Pérez, qui nous fait un petit débrief de sa journée et de son tournoi.
Je pense que voilà, si on m'avait dit qu'en début de journée, j'allais faire moins 1 ou du moins avoir 2 mètres au 18 pour faire moins 2 et faire moins 1, c'est dur de partir sur un dernier jour de majeur, d'être entre guillemets en se disant « Oh, ben, tu vas jouer sous le par un dimanche en majeur » et de dire non. Il faut aussi être réaliste voilà, dans la difficulté du parcours. Même si certes, j'ai bien démarré, la partie aurait pu être inversée comme j'ai fait samedi, de moins bien démarrer, de faire moins 3 retours pour jouer moins 1. Donc dans l'ensemble, très 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 satisfaisant.
C'est ta philosophie d'être accrocheur, combatif, c'est ancré en toi, c'est dans ton ADN?
Ouais, je pense qu'on est un petit peu forcé. Voilà, le golf est un sport hyper difficile, on n'est jamais mis en bonne situation, on est toujours remis en question. C'est jamais évident, on peut avoir de la chance comme pas de chance au trou d'après, il n'y a pas de logique. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu cette mentalité de jamais rien lâcher et de toujours croire que le bon coup va arriver, même si de temps en temps, on n'a pas de chance.
Qu'est-ce que tu vas retenir de cette semaine majeure? Ça valide beaucoup de choses dans ton travail?
Oui, c'est sûr. Après, voilà, je suis arrivé ici cette semaine en sachant que je jouais bien. Il n'y avait pas forcément de grosses questions dans lesquelles je me posais, que ce soit dans chaque compartiment de mon jeu. Voilà, je suis content de ma performance. C'est à continuer dans le travail et voir comment le reste de la saison va évoluer.
Finalement, c'est qu'une étape, ce top 15 pour le moment majeur. On a l'impression que c'est le début d'une belle aventure dans tous ces gros tournois-là, que tu as vraiment pris la mesure.
Oui, c'est sûr. Après, comme j'ai dit à Ben, mon préparateur physique ce matin, entre guillemets, que je fasse moins 6, moins 7 aujourd'hui, bah, demain il faut se lever et repartir à l'entraînement quoi qu'il arrive. Et que je fasse 78 ou 79, demain il faut se lever et repartir à l'entraînement. Donc en soi, je trouve que c'est important de ne pas trouver une finalité dans chaque tournoi, dans chaque journée. Sinon, on a les émotions qui font des hauts et des bas non-stop. Et plus voir plus loin sur la globalité du niveau et voir sur 3 mois, 6 mois, sur l'année, comment le jeu évolue. Et tant qu'on progresse, il n'y a pas forcément grand-chose à se soucier.
Est-ce que tu t'es... C'est peut-être bête comme question, mais est-ce que tu t'es amusé cette semaine? Est-ce qu'il y a eu de l'amusement dans ton jeu de golf?
Ouais, c'est sûr. J'ai pris vachement de plaisir à jouer. C'est forcément le monde qu'il y avait aujourd'hui. C'est pour ça qu'on joue dans les dernières parties de majeur, comme ça, avec beaucoup de monde, en faisant des birdies, en sentant la foule qui nous soutient. C'est toujours la meilleure atmosphère. On peut pas demander beaucoup de choses de plus.
Qu'est-ce qui te manque par rapport à ceux qui sont là-haut, tout là-haut sur le leaderboard? Tu penses peut-être le petit gap qu'il y a à franchir selon toi? Tu vas me dire que c'est dur à dire, mais...
Ouais, c'est dur à dire, et si quelqu'un le sait, qu'il me le dise, et je suis preneur, c'est jamais évident de pointer du doigt exactement quels sont... tout est un petit peu amélioré, mais tout est déjà très bon quand on est à... je ne sais pas combien de pourcents du max, c'est toujours les erreurs à trouver. Il faut aussi faire attention à temps en temps, pas trop chercher la petite bête alors qu'il n'y en a pas forcément. Et peut-être la patience, l'expérience aussi vont venir avec le temps pour aider. C'est dur de dire.
L'apport de ton cadet depuis ces quelques mois que tu travailles avec lui, on le te voit, tu discutes. On a l'impression que tu discutes tout le temps avec lui sur le parcours, sauf quand tu joues. C'est ça, il y a vraiment une discussion après, avant le coup, vous parlez de tout. Comment est cette relation?
Non, on se connaît déjà depuis la fac, ça fait 10 ans entre guillemets qu'on se connaît, 12 même. Donc voilà, on a un passé qui fait qu'on a beaucoup de choses à se dire, on se connaît par cœur et ça rend les choses forcément plus faciles de pouvoir communiquer, de parler de plein de choses et de se sortir un petit peu la tête du golf quand le parcours est compliqué, qu'on a peut-être eu un coup de pas de chance ou qu'on est justement un petit peu euphorique de parler d'autre chose, de pouvoir se sortir un petit peu les idées avant de se remettre dans le coup 2-3 minutes après.
Dernière question sur évidemment la Ryder Cup qui arrive. Ça passe forcément par de bonnes performances comme ça. On t'a vu avec Luke Donald et Yon Ram en reco. Ça fait partie du process. Qu'est-ce qui s'est dit pendant cette partie? C'était quoi? C'était si on peut en rentrer un peu dans les coulisses.
Ouais, je n'ai pas forcément envie de dire ce qui a été dit par le capitaine et numéro 1 mondial. Je pense qu'il faut aussi respecter, c'est assez personnel,
bien
même
sûr.
Si au-delà
c'est
de ça...
C'est mise en confiance, c'est ça c'est,
Non, je pense que c'est important, c'est mieux, c'est sûr, c'est mieux que... John m'a envoyé un message la veille en me disant est-ce que je voulais faire 9-3 avec Luke le lendemain. C'est forcément mieux de recevoir des
bien
messages
sûr.
Comme ça, c'est positif, plutôt que l'inverse, et de se sentir un petit peu à l'écart déjà à 2-3 mois de la Ryder Cup. C'est bien d'être dans ces parties-là, dans des discussions, mais...
C'est des bons signaux, quoi.
Qu'il y ait discussion ou pas, de toute façon, c'est les résultats, c'est des top 15, des top 10, des top 5 dans les gros tournois, des victoires qui feront que je me qualifierai pour la Ryder Cup.
C'est ton objectif, c'est vraiment un objectif qui te tient vraiment à cœur, c'est...
C'est sûr, jouer la Ryder Cup en Europe, mes objectifs de l'année, c'était d'avoir ma carte sur le PGA Tour, ce qui est pratiquement fait ou fait... avec les points que je vais gagner cette semaine, plus la Ryder Cup, et après, essayer de progresser. C'était vraiment les trois objectifs. Il y en a un qui est acquis, et pratiquement acquis, ou du moins, je ne sais pas, je n'ai pas fait les calculs, mais je ne dois pas être si loin.
C'est par quel biais, le PGA Tour?
Par le top 10,
le top
10 du DP World, et après, performer en majeur, et forcément la Ryder Cup, où je suis aussi plutôt bien placé.
Dernière question, Paris 2024, les Jeux, c'est... C'est aussi, on sait que tu es fan de sport depuis tout le temps, c'est quelque chose qui te fait rêver, que tu as dans la tête.
Ça, oui, c'est sûr que c'est probablement l'objectif de 2024, ça sera forcément l'année sur PGA Tour, les majeurs, mais les Jeux Olympiques à Paris, forcément, ça. Je pense que j'avais fait le choix de ne pas aller à Tokyo il y a 3 ans, et là, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas du tout envie de rater, et je vais faire le maximum pour me qualifier en tant que Français.
Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans les Jeux?
Ça reste les Jeux Olympiques. Je pense que quand on est fan de sport et qu'on est fan de performance, d'excellence dans ce que chaque compétiteur fait, c'est dur de ne pas trouver les Jeux Olympiques comme le pic, le sommet de la pyramide, l'excellence ultime en sport, dans des sports qui sont beaucoup plus durs que le golf, dans d'autres secteurs que je ne connais pas du tout. Et je pense que si j'ai cette curiosité de vouloir savoir comment...
De vivre l'expérience.
Je trouve que c'est au-dessus de tout, je pense.
Dernière question, vraiment, après je te laisse. Forcément, quand tu fais des belles performances comme ça, tu penses un peu à quand tu étais jeune, la Loubert, qui a fait d'ailleurs un cabanon, je ne sais pas si tu sais, avec ton effigie. Tu penses à tout ça, à ces gens-là qui te soutiennent, qui te regardent, ou tu y penses après?
Oui, sans doute après, sur le parcours, c'est dur de prendre du recul. Mais après, quand on a quand même beaucoup d'heures de voyage, beaucoup d'heures où... on a le temps d'être sur le téléphone, de discuter. C'est vrai que forcément, ben, on y pense. Et on sait que le chemin était long et que la route est, j'espère, encore très longue jusqu'à mon niveau maximum. Et oui, forcément, ça fait, c'est un petit peu de nostalgie de temps en temps, mais en même temps, ça fait plaisir de savoir que les gens derrière moi dans le sud-ouest me soutiennent et espèrent que je fasse le mieux chaque semaine.
Merci beaucoup, Victor, et
merci,
bravo.
Merci.
Voilà, Victor Pérez, hein, on le sait, hein, qui vient de Tarbes, hein, du golfe de la Loubert, là où il a tout commencé. Alors évidemment, à chaque fois, à chaque performance de Victor Pérez, c'est l'effervescence dans le club de la Loubert. Et justement, je vous propose tout de suite d'enchaîner avec un petit sonore qu'on a réussi à joindre Stéphane Chibous, qui est le pro de la Loubert. Et il nous raconte un peu l'ambiance, des ambiances majeures, on va dire, quand il suit Victor Pérez en tournoi majeur.
Bonsoir Jean-Philippe et toute l'équipe du JDG. C'est Stéphane au golf de la Loubert à l'hippodrome à Tarbes, le fief de notre ami Victor Pérez. Juste quelques nouvelles, évidemment beaucoup d'excitation au démarrage de ce quatrième tour du LSPGA. On espère que Victor va faire une très belle performance dans ce majeur. C'est vrai que la plupart des membres du club parlent beaucoup de la Ryder Cup. Donc beaucoup de gens attendent Victor en septembre prochain dans l'équipe de Ryder Cup. Mais la route est longue et on attend évidemment à chaque tournoi qui nous régale de ses plus belles performances comme à Abu Dhabi au mois de février dernier, c'était génial. Et l'association sportive d'ailleurs a voulu marquer le coup et a fait peindre deux petits bâtiments, là, un chalet et un bâtiment sur le parcours à l'effigie de Victor. Donc maintenant on voit Victor serrer le poing, un petit peu comme quand il a rentré sa sortie de bunker à Abu Dhabi. Mais on le voit tous les jours au golf sur les dessins faits par son ami d'enfance Enzo, qui a été sollicité par l'association sportive. Donc voilà, donc effectivement beaucoup d'engouement au golf de la Loubert. Tous les jeunes de l'académie junior sont derrière Victor. Et bien on lui souhaite le meilleur et on espère qu'il va faire un super quatrième tour. Donc voilà, donc régalez-vous devant la télé et on espère un bon résultat. À bientôt, merci, au revoir toute l'équipe.
Voilà, super sympa, hein, cette petite cabane à l'effigie de Victor. Il le dit, hein, Stéphane, on voit tous les jours Victor et quand il fait une belle performance, on est tous derrière lui. C'est important, cette vie de club.
Exactement, et c'est extrêmement motivant pour les jeunes de club quand ils peuvent avoir un moteur comme ça. Alors là, c'est un moteur.
C'est plus qu'un moteur là.
C'est un moteur avec beaucoup de chevaux. Hein. Mais en tout cas, d'avoir un idole, un mentor dans un club et quelqu'un qui nous donne envie de nous surpasser, c'est absolument génial. Et que les clubs jouent le jeu, ça c'est absolument génial aussi, parce que trop de clubs souvent ont la chance d'avoir un très bon joueur ou une très bonne joueuse et parfois ne les mettent pas assez en avant. C'est vraiment moteur et très intéressant pour un club.
Voilà Guillaume, que dire de plus sur cette édition de l'USPGA, cette 105e édition USPGA 2023 qui s'achève, on le rappelle, sur cette victoire de Brooks Koepka. La petite info, c'est quand même Scottie Scheffler qui va récupérer sa place de numéro mondial. Scottie Scheffler, après un Masters, on va dire, pas en demi-teinte, hein, parce qu'il était quand même aux avant-postes, qui finit deuxième à deux coups de Brooks Koepka.
Ouais, 65 aujourd'hui avec une remontée qui, à un moment, on a cru que ça allait faire peut-être un peu vaciller Brooks Koepka, ce qui n'a pas été le cas. Il fait moins 4 au retour, donc 65 aujourd'hui, un des meilleurs scores du tournoi. Ouais, il est toujours là, hein, Scottie Scheffler, il est extrêmement impressionnant. Et voilà, ils sont 3-4 à s'échanger cette place. Et pour le bien du golf, c'est absolument génial de voir que toutes les semaines, cette place de numéro 1, elle va d'un joueur à l'autre, que ce soit Rahm, Koepka, Rory McIlroy. Koepka, non, pas tout de suite, je m'emballe. mais s'il continue à jouer comme ça,
il devrait passer 13e mondial. Hein,
ouais, ça va bien se passer.
Et du coup, je reviens à cette question pour vous, Guillaume. Pour toi, Guillaume, j'ai du mal, hein, on le trouve tout
ouais, toi. Ouais, c'est fais comme tu veux.
C'est terminé l'époque où on voyait un Tiger Woods être solidement ancré au classement mondial. On voit que la densité et les très très bons joueurs m'ont fait un mou.
Oui, parce que la densité à l'époque de Tiger, il y avait de la densité aussi. C'est un extraterrestre. Et Tiger Woods est incomparable et je pense pas qu'on puisse comparer. C'est pas un problème d'époque, c'est un problème de C'est Dieu, donc c'est différent. En tout cas, c'est mon avis. Non, mais là, il y a une densité qui est absolument géniale. Toutes les semaines, on voit quand même. Puis il y a des joueurs qui arrivent qui, moi, m'ont impressionné cette semaine. Mihouli, c'est incroyable.
Ouais, votre petit coup de cœur, votre gros coup de cœur.
Ouais, c'est...
Le swing ?
Le swing.
Le jeu ?
Le swing, le jeu, tout. Le swing, c'est pas le plus gros physique du PGA Tour. Et il a une vitesse de balle à 190 miles par heure qui est complètement hallucinante. Il y a vraiment Cam Davis qui finit quatrième. C'est du très, très solide aussi. Enfin, voilà, il y a quand même un bon grand nombre de jeunes joueurs qui arrivent, qui sont aussi très solides. Et c'est ce qui fait que le golf en ce moment est absolument génial à regarder, que ce soit le PGA Tour, que ce soit le LIV Golf ou que ce soit même le DP World Tour.
Alors, et pour vraiment terminer, c'est vrai, quand on regarde ce classement général, on ne voit pas que des Américains, comme à une certaine époque. On voit des Américains, des Australiens, mais aussi des Européens. On voit par exemple Zeb Straka, 7e. On voit un Justin Rose qui est revenu un peu en grâce, 9e. On voit Sean Lowry, on voit Tyrell Hatton. Enfin, ça promet en tout cas pour la future Ryder Cup. Et là, la question, ça va être évidemment.
Ah ouais.
Vous me voyez venir.
Bien sûr, évidemment.
Vois venir, évidemment, pour Zach Johnson. Enfin, là, si Brooks Koepka, 2e du Masters. Gagne USPGA, on voit mal comment il ne pourrait pas être dans l'équipe américaine.
Ouais, là ils se tirent une balle dans le pied, les Américains. Enfin, ils se tirent une balle dans le pied. Vu le niveau des autres, je ne suis pas inquiet non plus, mais en tout cas, c'est dommage de se priver d'un joueur qui est aussi performant et qui en plus.
D'ailleurs, Zach Johnson a un peu botté en touche rapport à la question.
Et en plus d'être performant, Brooks Koepka, il a un autre atout majeur. En match play, il a une vraie personnalité. On sent que c'est quelqu'un qui montre très très peu ses émotions. Donc en match play, autant vous dire que ça a son poids aussi. Donc ça serait extrêmement dommage qu'effectivement la Ryder Cup se prive des joueurs du livre. Je trouverais ça, le mot c'est dommage. Et c'est dommage surtout pour le golf. C'est le golf qui serait un grand perdant de cette mauvaise décision.
Allez, en tout cas, le golf a été gagnant cette semaine avec 7 victoires de Brooks Koepka, une superbe 12e place de Victor Pérez. Merci à tous en tout cas. Oui, Guillaume, vous voulez rajouter quelque chose ?
Ouais. Alors, moi j'encourage quand même. Alors bien évidemment que c'est pas simple, que les États-Unis c'est loin, mais j'encourage tous les gens qui sont passionnés de golf de venir vivre un tournoi majeur.
Ah, il y a le British qui est pas si loin aussi.
Bien évidemment le British. La seule différence avec le British et le Masters, qui sont bien évidemment, s'il y avait deux tournois majeurs à mettre en avant, ça serait ces deux-là. Mais c'est des tournois, tu l'as très justement dit tout à l'heure, qui sont un peu plus feutrés, où il y a un peu plus de retenue. Ici, c'est comme si on allait au Parc des Princes ou qu'on allait au Stade Vélodrome. Il y a une ambiance qui est absolument géniale, qui est extrêmement dynamique et qui montre une autre image du golf que nous on connaît en Europe. Et donc je vous encourage vraiment, si vous avez la chance de pouvoir le faire, de venir assister une fois à un tournoi majeur.
Même un tournoi du PGA Tour.
Mais c'est quelque chose d'exceptionnel qui fait voir le golf différemment et qui prouve que ce sport, peut-être pour l'instant un peu plus aux États-Unis, est un vrai sport avec une ambiance de malade. Et on l'a vécu cette semaine et on a eu beaucoup de chance.
Allez, merci Guillaume, ça sera le mot de la fin. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis durant toute cette semaine du SPGA. Merci beaucoup Guillaume, c'était
merci Jean-Philippe.
C'était un plaisir et on se retrouve à très vite.
Plaisir partagé, à très vite.
Salut.